Vous écoutez Cinécast, le podcast cinéma présenté par Guillaume Herings et Thibaut Van der Werve. Au programme, l'actualité du grand écran et les nouveaux films à l'affiche cette semaine en Belgique. Bref, votre condensé d'infos ciné à ne pas manquer. C'est parti. Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast saison 2 épisode 27. Salut Thibaut.
Salut Guillaume.
Ça va, comment tu te sens aujourd'hui?
J'ai un état de fatigue sur une échelle de 1 à 10, je suis à 150.
Oui, parce qu'on rappelle que la semaine prochaine c'est le lancement du BIF. Rappelle-nous la date exacte, c'est quoi, c'est mardi, c'est...
Du mardi 9.
Mardi 9, ouais.
Au dimanche 21 avril.
Carrément.
C'est Pâques.
Deux semaines de films fantastiques, ouais. Un peu horreur, un peu de tout ça, aux Beaux-Arts,
ça
à Bruxelles.
Ça va être bien.
C'est pas mal.
Venez, viens aider les gens.
Viens aider. Du coup, BIF oblige, on enregistre cet épisode et en combinant les sorties de cette semaine-ci avec les sorties de la semaine prochaine. Et quand je dis les...
On arrive gentiment à deux films vus.
Oui, bah excusez-nous, il y a pas mal de changements ces temps-ci. Et donc oui, deux films vus, mais pas n'importe lesquels. C'est sans doute les plus attendus des deux prochaines semaines. Quoi qu'il y a Tanguy, le retour... La semaine prochaine, c'est sur ma liste, mais soit.
Je sais que tu vas en faire une priorité et tu me ferais un plaisir d'en parler prochain épisode.
J'irai le rattraper, certainement. Donc du coup, deux films qui sortent, un cette semaine, l'autre la semaine prochaine. Grâce à Dieu, le nouveau film de François Ozon qui a fait beaucoup de bruit dans la presse francophone, puisqu'il est question de pédophilie et d'attouchement dans le milieu de l'église. Donc tu vas nous en parler, bien sûr. Et deuxième film.
Décidément, on parle beaucoup de
oui.
Pénis ce soir.
Franchement,
hein.
De trucs sexuels. Mais je ne vois pas de quoi tu parles. Parce que les gens n'étaient pas là au début de la discussion.
Non, c'est vrai, on n'enregistre pas à ce moment-là.
Non, heureusement même. Et donc, le deuxième film dont on va parler, c'est Pet Cemetery ou Cimetière. Hein, ça, c'est le titre en français. Adaptation d'un roman de Stephen King qui, tu l'avais dit la semaine dernière, va ouvrir le BIF, si je ne me trompe pas.
Tu ne te trompes pas.
Voilà. Donc, on en parlera déjà maintenant dans cet épisode, en espérant vous donner peut-être envie de venir au BIF le mardi pour voir le film en avant-première d'une seule journée. Mais en avant-première quand même.
Oui.
C'est ça qui compte. et donc, voilà. Ça, c'est les deux films dont on va parler. Tout d'abord, on commence par le box-office. Pas de grosse surprise. Il y a Dumbo qui est sorti la semaine passée qui a fait le plus gros démarrage, avec 540 000 entrées en France. Donc c'est vraiment un tout tout gros démarrage pour un film de façon américain ou quoi que ce soit. Enfin, Disney, on sait bien que ça marche toujours très bien, et maintenant les adaptations live marchent également. Par contre, il faut le dire quand même, aux États-Unis le film est en dessous par rapport aux attentes. On attendait un week-end à 75 millions et il est à 45. Alors, vous allez me dire 45, c'est déjà pas mal, mais pour Disney, pour une grosse production comme ça, Tim Burton, etc., ils pouvaient s'attendre à plus.
Ouais, pas
maintenant,
terrible.
Disney se mord un peu la queue, ça pourrait être un débat d'émission, n'est-ce pas? En sortant des films presque toutes les semaines, c'est un peu le concurrent avec eux-mêmes,
oui.
Aussi. Hein.
Bon, pas toutes les semaines, on va peut-être pas abuser,
Captain Marvel, bientôt
mais
Avengers,
c'est vrai qu'ils ont un film tous les mois, tous les deux mois. Hein.
Ils ont un gros film tous les mois.
Ouais.
Un gros film tous les mois, et puis parfois des petites sorties à gauche à droite, mais sinon c'est vraiment le film tous les mois. Oui.
Elle est loin à l'époque où ils avaient deux films par an.
Oui, où il n'y avait que l'été, où il y avait genre un film de l'été, un film de Noël par exemple.
Ouais.
Et ben là non, maintenant c'est tous les mois, il y a un gros film qui sort. Hein. C'est un peu Fast and Furious qui avait lancé cette idée-là, parce que c'était Fast and Furious, je crois, 5 ou je sais pas quoi, qui était sorti au mois d'avril. Ou de,
quelque chose comme ça, ouais.
Et qui du coup a fait un score de malade, et les gens se sont dit, tiens, en fait, pourquoi est-ce qu'on sort des blockbusters qu'en été ou à Noël? Pourquoi pas sortir ça en plein mois de février? Et c'est pas de mauvaise idée. Donc, soit, c'est encore un autre débat. Dumbo premier. Deuxième, c'est Captain Marvel. Donc, deux films Disney dans le top 2. Donc, pas mal, ils sont au plaisir. 225 000 entrées pour Captain Marvel, ce qui fait un total de 2,7 millions d'entrées. Je crois que c'est un des meilleurs démarrages en France de l'année. Peut-être, forcément, il y a des comédies françaises qui font parfois 5 millions ou quoi, mais pour un film américain, c'est un des plus gros démarrages. Let's Dance. C'est un peu le step-up à la française, on en avait parlé. 185 000 entrées.
On n'en avait pas parlé, c'est
oui,
pas plus mal.
Tu vois, on a parlé un peu vite fait de l'affiche avec l'autre. Comment s'appelle ce type
Ryan Bensetti.
Ryan Bensetti. C'est pas le type qui joue dans Au bout des doigts? Non. C'est pas lui. Hein.
Non, ça c'est le fils de Samuel Benchetrit. Jules Benchetrit.
Attention, 185 000. Alors, quatrième film, c'est Us de Jordan Peele, qui lui va bientôt dépasser Get Out en termes de chiffres. Donc c'est grand chapeau pour Jordan Peele, même si le film est distribué sur plus d'écrans et il a coûté plus cher. Du coup, en mode retour sur investissement, bah, Get Out est meilleur. Par contre, Us continue dans la lignée. Cinquième.
C'est un budget énorme, comme 20 millions pour un film d'horreur.
Bah ouais, mais bon, il a augmenté sa paye sans doute, hein.
Oui, certainement.
Après, il y a Lupita Nyong'o, qui est une actrice qui coûte sans doute plus cher que les acteurs de Get Out.
Certainement aussi.
Certainement aussi. Donc, et puis voilà, il a un peu plus de moyens que Get Out dans ce cas-ci, même si on n'est pas non plus dans un film.
Non, bien sûr, mais voilà. Malgré ça, je trouve que 20 millions, ça reste quand même fort cher pour ce type de projet.
Bah,
mais...
c'est le budget de la Shit Family. Voilà.
Ouais. Rat de Johnny.
Ah, le budget du Chant du Loup aussi.
Là, Chant du Loup, il y avait.
On peut comprendre qu'il y a des dépenses, oui, ça c'est sûr.
Louer un sous-marin, c'est pas gratos. Hein.
Oh, même si l'armée, à mon avis, française a dû un peu.
Un peu.
Film sponsorisé par l'armée française.
Pas qu'un peu.
Un tout petit peu. Donc, Rebelle, cinquième film, 130 000 entrées pour ce film-là. Un total de 727 000 entrées. Donc, c'est un très bon score également pour cette comédie, hein, clairement, qui a un peu des côtés dramatiques, comme souvent les comédies françaises ont souvent ce côté dramatique, n'est-ce pas ? On parcourt tout de suite les sorties de cette semaine, donc du 3 avril, avant de rentrer dans la critique de Grâce à Dieu, que tu as vu la semaine passée, en France même. Tu as été jusqu'en France pour voir le film, tu vois, c'est comme ça.
Je me dévoue pour la cause.
Tu te dévoues pour la cause. Alors, quels sont les films qui sortent cette semaine au cinéma ? Grâce à Dieu de François Ozon, on va en parler dans une minute, donc ça ne sert pas à grand-chose de débarrer le sujet tout de suite. Binti, un film belge, mais pour être très franc, on n'en sait pas plus. À mon avis, c'est un film flamand. Chamboultou, je pense qu'on en avait parlé une fois ensemble, rapidement, un peu en mode, tu sais, c'est le nouveau film qui sort avec Alexandra Lamy et José Garcia, Michael Youn, si tu vois. Donc c'est un casting qui fait rêver. Même si José Garcia, j'ai encore revu le film Lola et ses frères qui est sorti en DVD, je vous le conseille à tous. Il était très bon dans ce film-là, mais là, ça sent un peu mauvais quand même. À voir l'affiche, on a l'impression d'être dans un jet set. ça me fait peur. Royal Corgi, ça c'est un film d'animation. C'est pas par ceux qui font par hasard les mignons ou un truc comme ça.
Mais non, voyons.
Pas du tout.
Non, Royal Corgi, c'est réalisé par le studio N-Wave, notre fer de lance de l'animation mondiale.
Bah on dirait en tout cas un truc un peu d'illumination.
Mais oui, mais non, c'est belge.
Ah bah voilà, alors.
C'est un film belge.
Alors je retire tout ce que j'ai dit.
Et ça va certainement être un des plus. En même temps, au niveau du box-office belge, les 5 plus gros résultats, c'est 5 films N-Wave Pictures. Hein. Et oui.
Quelles autres productions ils ont fait, Dwayne Fixer, à titre
d'exemple? Les deux Samy, tu vois, la petite tortue là. Fly Me to the Moon, c'était leur tout premier.
Ouais.
Et je pense même que c'était le premier film entièrement en 3D. C'était avec une histoire de mouche qui partait sur la lune, avec Neil Armstrong, etc. Il y avait La Maison Hantée, il y a eu Robinson Crusoe, c'était leur dernier, je pense. Ah non, il y a eu... Son of Bigfoot aussi, enfin Bigfoot Junior. Là, c'est ça leur dernier. Et c'est la suite qui sera leur prochain aussi.
D'accord.
Voilà. Et chaque film, à part Robinson Crusoe. Non, à part Bigfoot Junior, pardon.
Ouais.
Tous les films ont été composés. Enfin, la musique a été composée par Ramin Djawadi.
Bah voilà.
Voilà. Donc, Monsieur Game of Thrones, Westworld.
Royal Corgi.
Son tout premier film, c'était un film N-Wave. Et du coup, il reste fidèle à vie.
Bah, écoute,
parce que maintenant, je peux dire que s'il devait le payer au tarif qu'il demande,
au tarif plein
c'est plus possible, tu vois. Mais non. Vu qu'il a commencé avec eux, etc., et voilà, c'est
une amitié.
C'est une histoire d'amour.
Exactement. Hein. Il y a deux films avec Edouard Baird cette semaine au cinéma. Un où on le voit en chair et en os et un où il fait une voix. Le premier, c'est La lutte des classes avec Léla Bekti et Edouard Baird. Et avec Ramzi Bedia, entre autres, comédie française, hein, ça c'est sûr. Cold Case, Hamars, oulala, mon dieu, documentaire danois, qui s'appelle Cold Case de Mats Brugger, alors on n'en sait pas plus. Terra Willy, c'est Planète Inconnue, c'est ça le deuxième film d'animation qui sort cette semaine, un film d'Eric Tosti avec notamment Edouard Baird à la voix, au doublage. Mon Inconnu, un film avec François Civil qui sort également, une comédie. Alors, François Civil, on le voit partout. Chant du Loup, maintenant, Mon Inconnu. Un autre film qui sort et qui est très attendu, mais on n'a pas pu le voir malheureusement. Il a eu des très très bons échos aux États-Unis. Mais bon, comme tu le disais la fois passée, ça ne veut rien dire.
Oui.
Shazam.
Assez curieux. Oui, je suis pas plus emballé que ça, mais je suis curieux.
Bah, tu sais que dans le casting, il y a Adam Brody de Newport Beach, quand même. Ça, c'est...
Oh mon dieu, il est encore en vie.
Exactement, c'est ça le truc qui fait un peu rire.
Il y a Mark Strong, je suis sûr qu'il fait le méchant. Mark Strong.
Bien sûr que c'est le méchant. Oui, c'est le méchant. Et Zachary Levi, qui, depuis la série Chuck, ne faisait plus grand chose et qui là, boum.
Oui, mais a-t-il seulement fait autre chose à part Chuck?
Si, il a fait des voix dans Réponse, la Princesse Réponse, tu vois, un truc comme ça.
Ah oui, d'accord.
Oui, non, sa carrière était un peu.
Inexistante.
Il a eu des petits problèmes de paiement de loyer à un moment donné. Et puis, boum, là, il se retrouve au devant de l'affiche. Donc,
Shazam!
Sans doute du meilleur film DC depuis que Christopher Nolan n'est plus là.
S'il te plaît, reviens, Christopher.
Mais c'est pas très compliqué.
Mais c'est pas très compliqué parce que ça n'est plus là.
Tea with the Dames, mon dieu. Documentaire anglais avec notamment Judi Dench, un film de Romer Mitchell. Ah, Roger oui. Mitchell, pardon. Et enfin, ça c'est un film qui aurait pu être sympa.
Avec Judi Dench, mais pas seulement Judi Dench. Hein.
Non.
Il y a aussi Maggie Smith, évidemment, parce que oui, bah, tu peux pas faire un film avec des petites vieilles anglaises qui boivent du thé sans Maggie Smith et Judi Dench. Je sais pas combien de films elles ont fait ensemble, mais elles ont dû en faire un paquet. Hein.
Ouf, entre deux parties de bridge. Et puis, dernier film de la semaine pour cette semaine-ci, c'est Alex, le destin d'un roi. C'est The Kid Who Will Be King. Ouh là là, mon dieu, en anglais, c'est pas compliqué, c'est pas facile. Film avec Rebecca Ferguson, Patrick Stewart, entre autres. Donc, un gros, gros film. Et c'est un film de Joe Cornish, celui qui a fait Attack the Block.
Il avait pas fait un... Je vais peut-être dire une connerie, il avait pas fait un Captain America aussi, lui.
Pardon.
Je confonds.
Waouh.
C'est le premier ou quoi, non? C'était pas lui qui avait fait ça?
Non, non. Il a fait Attaque de Bloc et puis maintenant il fait Alex le destin du roi. Attaque de Bloc, pour rappel, c'était ce film qui était sorti en 2011, donc un petit temps quand même.
Ouais, je me souviens bien de ce film.
C'était un peu sensation hein, sur les banlieues anglaises avec un côté un peu super-héros. Il y avait un peu ce mélange des deux mondes. Et ici, c'est un peu le même délire. En soi, c'est un enfant d'une banlieue anglaise, mais plutôt résidentielle. Qui, en fait, c'est un mélange du roi Arthur, mais raconté depuis la banlieue résidentielle anglaise aujourd'hui.
D'accord.
Avec un jeune qui trouve une épée et qui la sort d'une pierre.
Et en fait, je confondais, il a effectivement bossé sur un Marvel, mais il a écrit Ant-Man. C'est après...
Il est passé après son pote.
Il est repassé, ouais.
Il est passé dessus.
Oui, c'est vrai que c'était son pote en plus.
Oui, il s'entend bien. Bah, oh, sans doute toujours le cas.
Oui.
Donc voilà, ça c'est les sorties de cette semaine. Je propose qu'on parle directement de Grâce à Dieu, hein, le premier film dont nous allons parler cette semaine. Grâce à Dieu, donc du coup, film de François Ozon, réalisateur qui est très connu, notamment par le public cannois. Hein. On a l'habitude de le voir là-bas avec ses films, non?
Oui.
Jeune et joli.
Oui, pas que Cannes, ça dépend. Ici c'était Berlin. Il avait déjà été à Berlin aussi avant, je pense. Donc oui, il aussi. Entre les grands festivals.
En général, ces films sont toujours accompagnés d'une petite polémique. Je me rappelle bien de la sortie de Jeune et Jolie avec, tu sais, tout ce problème de prostitution des jeunes étudiants et tout.
Ouais.
Est-ce qu'ils veulent faire ça par plaisir, par argent, tu vois, toutes ces questions-là. Et ici, il vient de nouveau avec un film qui a fait la grosse polémique puisqu'il y va frontalement. Hein, il attaque, entre guillemets, l'Église. Non, il attaque l'Église.
C'est frontal.
Point. Mais à travers une histoire, hein, qui est une histoire vraie ou pas du tout, en fait, je pense que c'est une fiction.
Ah non, c'est complètement vrai.
D'accord, donc c'est encore ça.
Alors, on va en reparler un peu plus longuement l'histoire, mais c'est l'histoire notamment du cardinal Barbarin, le cardinal de Lyon, enfin de Lyon, comme disent les Lyonnais.
Lyon.
Nous, on dit Lyon, on fait Lyon, et eux, ils disent Lyon. Donc voilà.
Okay.
Pour faire plaisir aux Lyonnais, je m'adapte.
Olympique lyonnais.
Alors, entre la sortie française et le moment où je l'ai vu, on a appris que le cardinal Barbarin était condamné pour ces faits qu'on va expliquer maintenant. Donc, c'est assez intéressant de voir le film en sachant ça.
A posteriori.
Oui, même si, évidemment, appel, tout le bazar. Hein,
oui, ils vont pas se laisser faire si facilement que ça.
Non, exactement. Mais globalement, grâce à Dieu, de quoi ça parle? On suit trois personnages. Et on démarre avec le premier, Alexandre, qui vit avec sa femme, ses enfants. Ils vont à l'église, famille catho, tradie. Hein. Et c'est lui le narrateur de l'histoire. Il fait la voix off. C'est un montage assez sympa. Ça permet de directement bien rentrer dans l'histoire de cette famille. Et il raconte qu'au détour d'une sortie d'église, un de ses amis, avec qui il était au scout, lui demande, tiens, est-ce que toi aussi, quand on était au scout, tu t'es fait tripoter par le prêtre, enfin le père, je sais plus son nom.
Discussion de barbecue, quoi. Un truc qu'on demande entre amis.
Exactement. Et donc cette question va germer dans l'esprit d'Alexandre et va lui remémorer des souvenirs plutôt douloureux, hein, parce qu'effectivement c'était son cas.
Comme, douloureux et enfoui, quoi.
Mais comme beaucoup d'autres, comme on va rapidement le découvrir. Et donc Alexandre va être vraiment l'instigateur d'une dynamique qui va se mettre en place contre l'Église. Alors, à la base, il veut juste des explications, des excuses, et que justice soit faite envers ce prêtre. Et donc, quand il va découvrir qu'effectivement, les supérieurs du prêtre étaient au courant de tout ça, c'est là que ça devient vraiment problématique.
Et parce qu'il se dit, c'est pas juste une personne, c'est un complot, en fait, de personnes qui ont voulu étouffer l'affaire, quoi.
Oui. Mais alors, c'est plus compliqué que ça, parce que le prêtre en question n'a jamais caché ses problèmes. Parce qu'effectivement, c'est un problème, et il en était conscient.
Oui.
Il l'a jamais caché, et je pense que... Alors, je me souviens plus exactement du détail, mais il me semble qu'il a essayé de prendre des mesures un moment contre ça. Bon, je ne veux pas l'excuser non plus, hein, c'est dramatique ce qu'il a fait. Mais tout ça pour dire que... il y avait tout aussi coupable que lui.
Oui.
Sa hiérarchie, évidemment. Et sa hiérarchie, c'est entre autres le cardinal Barbarin, qui est une figure qu'on voit partout dans les médias français, parce que depuis que cette affaire a éclaté,
il en prend pour son grade.
Clairement.
C'est donc, ça aussi, avoir des responsabilités, hein, il faut savoir.
Ah, bien sûr.
Oui.
Et donc, le personnage d'Alexandre. En fait, on va dire que le film est construit en trois grandes parties. La première, on suit Alexandre, et donc les débuts de cette affaire, comment elle va arriver, comment elle va se développer. Ensuite, on va arriver à un autre personnage, dont je ne sais plus le prénom.
François ou Emmanuel, un des deux.
François. qui, lui, était aussi une ancienne victime, mais elle va apprendre... que, en fait, à un moment du film, Alexandre va décider de porter plainte, très officiellement. Sauf que les faits sont prescrits. Et lui, il est dans ceux qui ont été prescrits. Mais enfin, voilà, une plainte a été déposée. Et ça se sait. Et donc, des gens qui sont des victimes vont commencer à se réveiller, à se dire, mais oui, certains, tu sais, au début, ils ont tous, pour la plupart, refoulé ça, essayé de l'oublier.
C'est souvent ce qu'on dit. Hein,
parce que quand tu le ressens comme enfant et puis que tu le ressens comme adulte, c'est pas souvent la même chose. T'as pas la même perception des choses. Donc,
puis c'est un peu comme avec le mouvement MeToo, dès qu'il y en a un qui sort du bois, il y en a plusieurs qui veulent rejoindre, du coup.
Voilà, exactement. Et l'idée, c'est d'attirer des victimes dont les faits ne seraient pas prescrits. Parce que tant que c'est prescrit, malheureusement, tu peux rien faire. Donc voilà, la deuxième partie se concentre principalement sur François, qui va lancer, lui, quelque chose, un mouvement presque national. National. En tout cas, ils vont faire une conférence de presse, il va avoir l'appui des médias, il va trouver d'autres victimes. Il va vraiment lancer quelque chose de... Il va y aller frontalement, face à l'Église. Et ensuite, enfin, on va suivre le dernier personnage, Emmanuel, qui est également une victime non prescrite.
Mais qui est plus jeune, c'est ça.
Voilà, et qui est un peu plus jeune, évidemment, que les autres. Donc, voilà, le film se déroule en trois étapes. Et alors, le film est...
C'est un peu un Place Beyond the Pines, mais version agression chez les prêtres.
Dans la construction narrative, d'une certaine façon, oui. Hein, mais... oui, sauf que là, on suivait des générations différentes. Mais oui, il y a un petit peu de ça. Vraiment, juste dans la construction narrative.
C'est très limite.
Oui. Ici, le film est quand même assez long, il fait 2h15.
Oui.
Il faut s'accrocher parce que...
Le sujet n'est pas facile, hein, c'est ça en plus.
C'est ça. Je ne vais pas te mentir, j'ai pas mal pleuré pendant le film. Parce qu'il y a un moment où t'es... C'est ignoble ce qui se passe. T'as des personnages qui ont l'air très détachés par rapport à ça. Il y a des scènes qui sont vraiment très très fortes, parce qu'il y a des confrontations entre ce prêtre qui est accusé et certaines de ses victimes. Et tu te dis que le gars, enfin, il est très particulier parce qu'il est conscient de ce qu'il a fait, il est conscient que ça puisse avoir fait du mal à certains. Parfois, tu as l'impression qu'il pense que c'était peut-être pas grand-chose, et effectivement, c'est peut-être sincèrement ce qu'il pensait à une époque, tu vois.
Ouais.
Donc, je trouve que c'est un personnage assez, assez
C'est
complexe,
qui joue le prêtre
mais
dans le
très
film?
intéressant. C'est une excellente question. Mais cet acteur était fabuleux, vraiment. On le voit pas tant que ça, ce prêtre-là.
Ah oui, c'est pas le. Ok.
C'est clairement pas le personnage le plus important du film. Je pense que globalement, il a deux scènes. Une assez tôt au début de l'affaire, où Alexandre cherchait juste à avoir son pardon, etc.
À le confronter quand même.
Voilà. Mais il pensait. Alors, à ce moment-là, il pensait pas encore à vraiment faire tout un truc, tout un ramdam
Il n'y a pas
autour de ça.
conscience du raz-de-marée qui
Il
arrivait,
voulait
quoi.
vraiment que ce soit quelque chose de plus personnel, comprendre et avoir des excuses.
Ouais.
Ce moment-là ne l'a pas satisfait, donc il va essayer d'entamer des démarches un peu plus fortes, un peu plus significatives. Et donc ça, c'est une des deux scènes avec ce prêtre. Et puis la deuxième, c'est une confrontation à la fin avec le jeune dont les faits ne sont pas prescrits. Et là, c'est une scène assez très très forte également. Enfin, ces deux scènes-là sont très fortes, de toute façon. Mais
Tout un programme.
le nom du comédien m'a échappé.
Oui.
Mais les comédiens principaux sont interprétés par Melville Poupeau, qui joue Alexandre, donc. Il y a également Denis Ménochet, qui joue le rôle de François. Et Swan Harlow, qui joue donc Emmanuel. Alors, c'est assez bizarre, entre guillemets, de mettre tant en avant Swan Harlow, parce que son personnage arrive allez, après 1h30, 1h40 de film, toi, tu te dis, ah, c'est maintenant qu'il arrive, tu vois.
Ouais.
Alors que ça fait déjà 1h30 que t'es devant le film. Bah bon, voilà. Et donc, l'acteur qui incarne le père en question, qui est le père Prénat, s'appelle Bernard Verlet. Il a une carrière de fou. En fait, on sait qu'on l'a déjà vu quelque part, tu vois, mais tu connais pas forcément son nom.
Ouais,
Mais
c'est ça.
il a une très très belle
Un
carrière
caméléon.
avec beaucoup de bons films et de grands réalisateurs. Il a tourné avec Éric Rohmer, Louis Buñuel, Claude Miller, Godard. Enfin, voilà, juste ça.
Quelques personnes, quoi. Petite
Oui.
liste.
Plutôt pas
Ok,
dégueulasse.
donc du coup, bon, le sujet est prenant. La manière dont c'est raconté aussi, tu me dis que c'est 2h15, tu t'as senti le temps, ou au
Non,
contraire, voilà, enfin,
du
comment
tout, parce
tu.
que t'es à fond dans le truc, les personnages sont hyper intéressants, que ce soit Alexandre, François ou Emmanuel, mais il y en a d'autres qui sont très très forts, notamment le personnage de la mère d'Emmanuel, qui est joué par Josiane Balasko. J'avais jamais vu Josiane Balasko aussi bien. Elle est
Après All
hallucinante.
Inclusive, ça change un petit peu.
Ah, ça c'est clair. Non, mais c'est clairement, on a l'habitude de voir Balasko jouer dans
Un
des
truc un peu
comédies
caricatural, oui, c'est ça.
balourdes, hyper
Ouais.
franchouillard, voire plus que franchouillard.
Avec Christian, hein, presque.
Ouais, des trucs très très lourds en général. Et là, la voir dans quelque chose d'hyper sérieux où tu vois qu'elle peut faire, elle peut
Elle peut
jouer autre
jouer ça,
chose,
oui, c'est ça.
bah t'es juste impressionné quoi, parce que elle est fantastique, tout simplement. Elle est fantastique.
Bah écoute.
Mais tous les seconds rôles, voire les troisièmes rôles, sont tous comme ça. Il y a un boulot exceptionnel qui est fait au niveau de la mise en scène, de la photographie, qui est signé Manu Dacos, un de nos chefs-op, un de nos étendards. Vraiment, ça a été une excellente surprise. Je pense que le film avait bien fonctionné à la Berlinale. Il avait eu des bons retours. Je ne pense pas qu'il ait
Rafler quelque
rappelé quelque
chose.
chose. Rafler quelque chose, pardon. Mais en tout cas, c'est un film qui est très clairement marquant. Alors, ce n'est pas un film qui va cartonner en salle. Il faut vouloir se coltiner 2h15 sur les scandales de pédophilie dans l'église et de la hiérarchie qui a essayé de cacher tout ça, hein. Mais si on accepte de rentrer là-dedans, de rentrer dans l'intime de ces personnages et de ces familles, bah, on passe un. je vais pas dire qu'on passe un excellent moment, c'est tu vois. C'est pas le, non, pas le genre de film que tu...
Ça attaque le problème un peu plus frontalement qu'un Spotlight, par exemple, qu'il avait fait il y a quelques années.
Ouais,
voilà.
Bien et sûr. C'est, bon, complètement.
Vu du sujet, quoi. Hein.
Mais oui, et c'est d'autant plus actuel que, comme je le disais au début, alors, un peu après la sortie du film, quelques jours avant que je le vois, ben on a appris que le cardinal Barbarin avait été condamné par la justice française pour avoir caché ses méfaits. On sait que voilà, ils vont aller en appel, etc., et que la peine requise pour l'instant est dérisoire. Je pense que c'est quelque chose comme 6 mois de prison, ou peut-être 2 ans, tu vois, mais c'est ridicule.
Ouais, 2 ans, mais donc, encore avec sursis. Enfin, genre, en gros, il peut partir ou deux jours.
De toute façon, on n'a pas fini d'en entendre parler, tu
ouais,
vois.
Ouais, bien sûr.
Et par rapport à ça, d'ailleurs, le pape avait tenu des déclarations assez ignobles.
Glaçantes.
Alors que je trouve que le pape François, par rapport au précédent, fait preuve d'une certaine ouverture.
Flexibilité.
Et flexibilité, on peut dire ça comme ça. Là, il a raté une occasion de se taire parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas condamner Barbarin parce qu'il fallait laisser le doute de l'innocence, mais non, la présomption d'innocence. Sauf qu'il a dit ça après qu'il ait été condamné par la justice.
Ah oui.
Donc, t'as plus de présomption d'innocence une fois que t'as été condamné une première fois.
Il a oublié de dire le mémo, quoi.
Voilà.
Il y a un gars qui s'est amusé à résumer l'affaire, il l'a foutu sur le lit du pape, il l'a pas lu. Ouais. Et donc, il arrive et il dit « Ouais, moi, je... »
Ouais.
Ta gueule.
Mais François, non. Il fallait te taire.
François lit les notes. Ok, qu'est-ce que tu donnes du coup à François Ozon pour Grâce à Dieu ?
Bah écoute, je pensais pas donner ça à François Ozon, mais un 4.
Un 4 étoiles, bah oui,
j'hésitais à dire 3, mais non, allez 4, parce que vraiment, j'en suis sorti bouleversé, je te le cache pas. J'ai été le voir au cinéma des Halles, à peu près n'importe qui de Paris, voire même de pas Paris, connaît ce cinéma. Je pense qu'il m'a fallu un bon... Je suis rentré à pied là où je logeais. Il me fallait tout le trajet là pendant 20 minutes. J'étais. Ouf. C'est pas évident, tu vois. J'étais content de marcher et de pas être juste assis là en train de. Non.
C'est pas un film à regarder un mardi soir où vous êtes déjà pas de bonne humeur parce que c'est.
Non,
ça va.
Faut.
Faut s'y préparer avant de regarder ce genre
de
film.
C'est ça. Vraiment, faut se dire je vais aller voir un truc très sérieux, très difficile.
Mais je vais en ressortir un peu plus, peut-être pas malin, mais en tout cas plus réfléchi, plus essayer d'avoir vu la problématique. Et après, c'est un film à débat, quoi. C'est un film où tu peux aller manger un bout avec des potes après et en discuter.
C'est ça, c'est exactement ça.
Ok, ben voilà, 4 étoiles pour Grâce à Dieu. On est généreux aujourd'hui, on a que 2 films, mais bon, voilà, on fait plaisir du coup.
Ben oui, allez.
4 étoiles. Et puis bon, ça fait plaisir d'avoir un film qui, de nouveau, propose une vraie proposition au cinéma français. Je veux dire, chaque année on a un peu des surprises. L'année passée on est jusqu'à la guerre, etc. Ici on commence boum avec un Grâce à Dieu de François Ozon qui fait des étincelles. Parlons de quelques news avant de passer à la semaine prochaine. Bah oui, déjà 3 news en particulier. La première news qui moi m'a fait un peu sourire, c'est Tom Hanks qui est en discussion pour rejoindre la distribution d'un film sur Elvis Presley. Alors là tu te dis Elvis Presley, Tom Hanks, what? Mais c'est pas pour jouer Elvis sans doute, ou bien Elvis plus âgé ou autre, mais on n'est pas là. Un film qui serait réalisé par Baz Luhrmann, donc l'homme qui a fait Le Moulin Rouge, Gatsby le Magnifique, donc des films haut en couleur en général.
Australia. Est-ce que vous vous souvenez d'Australia? Un film qui parle de l'Australie, qui se passe en Australie, avec des acteurs australiens. Hugh Jackman et Nicole Kidman.
Mais que personne n'a vu, à part les Australiens.
Moi, je sais que je l'ai vu.
Voilà. Mais oui, Baz Luhrmann, c'est un réalisateur un peu haut en couleur, qui fait toujours des trucs un peu fantaisistes, olé olé. Et donc...
C'était quoi son dernier film, d'ailleurs?
Je sais pas, moi je dirais Gatsby.
Ah oui, c'est vrai, il a fait Gatsby. Oui. Hein, j'avais oublié ce film.
Ah ouais, ouais,
c'était pas bien Gatsby. Oh là là.
C'est pas lui qui a essayé de faire le Greatest Showman?
C'était poussif.
Ah, c'est bien possible ça.
Non, c'est pas lui qui a fait ça. Mais avant Gatsby, oui, donc effectivement Gatsby était son dernier, et puis c'était Australia, et puis Moulin. Ah oui, donc il a vraiment pas fait grand chose en fait Baz Luhrmann.
Mais quand il fait un truc, il le fait.
Et il a fait la série de Get Down, il paraît que c'était bien ça par contre.
Mais Baz Luhrmann, oui, c'est le genre de mec qui, quand il sort un film, les gens l'accueillent un peu comme un événement, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, il y a une esthétique très travaillée, un univers, un truc. Voilà, on peut dire ce qu'on veut. Gatsby, c'est quand même une grosse claque visuelle. Enfin, il y a plein de trucs assez impressionnants dans ce film. Et là, il fait un film donc, sur Elvis Presley avec Tom Hanks, un biopic. Bon, pourquoi pas, hein, je veux dire, ça peut tout à fait être une proposition enrichissante. Maintenant, je ne sais pas si Tom Hanks quel rôle va-t-il jouer là-dedans, mais en tout cas ça m'a fait sourire de voir l'association Tom Hanks et Elvis Presley, c'est un truc qui m'a fait quoi.
Oui, alors enfin, je vais pas m'avancer, mais je pense pas que Tom Hanks va incarner Elvis Presley. Ou alors en fin de vie avec des bonnes prothèses à la Christian Bale qui joue Dick Cheney, tu vois.
Ou alors il joue un vieux fan ringard de Elvis Presley, tu vois, un peu genre podium, tu vois.
Oh mon dieu, je suis tombé sur Jean-Philippe il y a pas longtemps là. J'étais
C'est le film. C'était drôle. Il y a qui dans ce film?
Johnny.
Oui, c'est ça, c'est Johnny.
Et Fabrice Luchini. Tu vois,
c'était... la paire quoi.
Bah, c'est comme le prochain film de Danny Boyle là. C'est un monde dans lequel les Beatles.
Oui, il y a pas les Beatles.
Où il y a pas les Beatles. Ouais. Bah, Jean-Philippe, c'était ça. Non, mais ils vont pas faire ça sur Elvis quand même. Mais en bon vieux fan ringard d'Elvis, ça serait drôle, Tom Hanks. Il a pas du tout la tête de l'emploi, mais...
Non, mais c'est ça qui est drôle.
Oui. Enfin bon, nous avançons pas, on ne sait pas de quoi il s'agit.
On n'est pas dans le secret. Deuxième nouvelle...
Ah non, t'es pas dans le secret, toi?
Non, pas toujours.
T'as pas le numéro de base?
On a le numéro de quelqu'un d'autre.
Moi, je peux te dire que j'ai les numéros de quelques personnalités, quand même.
Ça, je sais.
Et voir les adresses mail personnes...
De certaines personnes qu'on voit beaucoup à l'écran.
J'ai le mail perso d'un certain Guillermo.
Ah ouais. J'ai le GSM de William Legbin, ça c'est tout.
Ouais, ouais. J'ai le numéro de GSM de...
De quelqu'un d'autre. Qui sera peut-être au bif.
Qui sera peut-être au bif.
Certainement.
Soit. Passons.
Deuxième actu. Ça, on est en train de rigoler, mais c'est pas
ça
drôle.
Ça fait toute ma soirée.
Ça, c'est pas drôle. Agnès Varda qui est décédée.
C'est les montagneurs de cette émission, hein.
Oui, on parle d'une personne mystère au bif, et puis là on parle de d'Agnès Varda.
Arrête, les gens vont croire qu'on parle d'un invité mystère, c'est même pas une invitée.
Donc c'est pas un invité, c'est une invitée.
C'est oui, déjà c'est une, confirmé. Mais.
C'est une invitée.
C'est pas une invitée. C'est juste passé quelque chose.
Elle a un prénom qui commence par C.
Chut, non, tu arrêtes. Tu arrêtes.
Voilà, on arrête là.
Non, non, non. Stop.
Stop. C'est pas Agnès Varda en tout cas qui est au bif.
Non, allez, non, faut arrêter là. Oh.
Faut arrêter.
Non.
Agnès Varda qui est décédée la semaine dernière.
Salut l'artiste. Non, il y a 3 jours là.
Oui, la semaine dernière, le 29. Donc c'est...
Oui, c'est vrai. Pardon.
Qui a été un peu honoré partout sur les réseaux sociaux par plein de gens, par tous les autres, bien sûr, c'est logique.
J'ai quand même vu le caricaturiste Plantu, que tu connais sans doute, caricaturiste du Monde, je pense. Il a réussi à faire un dessin d'hommage d'Agnès Varda avec des parapluies autour. Epic fail, parce que effectivement les parapluies de Cherbourg, c'est Jacques Demy, mais c'était son mari. Je veux dire, Agnès Varda a quand même fait...
Elle a fait autre chose, quoi. Tu vois. Elle a fait des choses, quoi.
C'est le moment très honteux où j'avoue que je n'ai vu aucun film d'Agnès Varda. J'ai même pas vu Visage Village. Je l'avais loupé à Cannes, malheureusement. Il paraît que c'était très bien. Mais, je veux dire, Agnès Varda a quand même une carrière seule, assez incroyable et suffisante que pour ne pas aller foutre les parapluies du film de son mari pour lui rendre hommage, quoi, tu vois.
Elle a pas besoin de trucs de son mari.
Oui, c'est comme toujours ramener certaines personnes à leur époux ou à leur épouse. Ou...
Mais tu sais, c'est comme quand les femmes meurent d'un certain âge. Je sais pas si tu vois sur les trucs de condoléances, là, les faire-part. Mm. Il est marqué monsieur, madame, et puis c'est le nom de l'homme.
Madame, ouais. Et puis
tu vois, comme par exemple Guillaume Rings, ce serait madame, monsieur, madame Guillaume Rings. Ce serait ça, est décédé.
Si t'as...
C'est bizarre.
Si Chloé est décédée?
Oui.
Oui, il serait mis
madame
Guillaume Rings. Rings.
C'est dingue, ça. Oh là là. Je trouve qu'aujourd'hui,
la pauvre.
Bah oui. Ça n'arriverait jamais avec madame, ça j'en suis sûr. Elle a écrit ça quelque part sur un truc, le notaire a sorti ça. Ouh! Deux, troisième news, on change totalement de sujet.
Dévoile-nous l'entièreté de ton contrat de mariage.
Oui, ouf, oulala, j'ai fait un deal. Troisième news, ça c'est une news, bah justement quelqu'un qui a fait un deal aussi. Qu'est-ce qui s'est passé là chez les Cohen? Il y a Joël et Ethan qui se sont peut-être un peu froutés, je sais pas ce qui s'est passé.
Non,
mais
je pense pas.
Très concrètement, il y a Joël Cohen qui va faire un film sans son frère.
Mais oui.
C'est déjà assez rare pour le dire, enfin, ça n'a jamais arrivé.
Non, c'est arrivé sans être arrivé. Leur premier film. Il n'y en avait qu'un des deux qui était crédité. Je pense que c'était Joël qui était crédité comme réalisateur. Ethan ne l'était pas, mais il réalisait quand même à deux. Pardon. Et donc là, c'est une petite surprise.
Bah oui, donc
petite curiosité.
Un film, et pas n'importe lequel, hein. un film de Macbeth, quoi, tu vois, déjà,
ouais.
Sujet quand même assez particulier, avec Denzel Washington. Là aussi, dans des castings un peu curieux, on est servi. Denzel Washington et Frances McDormand.
Évidemment.
qui est
son épouse.
Son épouse, on dit.
Bien, comme ça, ils bossent ensemble.
Ils font bosser la famille.
Ils couchent ensemble.
Chez les Cohen, ils sont comme ça.
Ils gagnent des Oscars, pas ensemble, mais.
Si tu épouses la fille de Joel Cohen, tu vas bosser. Ça, c'est le concept.
Ouais.
Donc voilà, des bonnes news cinéma. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup plus pour l'instant. Il y a eu pas mal de bandes annonces, des trucs comme ça, avec la bande annonce du nouveau Tarantino et tout. Mais on va pas rentrer là-dedans. Parce
nouveau
que...
qui
Tarantino.
Arrête avec lui.
Voilà, que tu verras peut-être à Cannes, c'est pas programmé, mais ça pue quand même.
Je dirais, si Tarantino n'est pas à Cannes, ouais non, je vais pas m'avancer.
Cannes sans Tarantino et...
avec des paris comme ça, mais non vraiment, s'il y en a bien un qui y sera, je veux dire, le film sort au mois d'août, donc c'est foutu pour Venise, etc. C'est Cannes d'office.
Ouais, avec un tapis rouge XXL. Hein.
Déjà que Venise prend de plus en plus de films, hein, tous les films américains. Si en plus il passe à côté de la grosse sortie américaine qui sort avant Venise. Là, vraiment, c'est que ça va pas, quoi.
C'est qu'il y a un gros problème.
C'est qu'il y a un très, très gros problème.
Ouais. Surtout que, bon, je pense que Brad Pitt, DiCaprio et tout, se taper un petit bateau...
Ça fait un putain de tapis rouge. Et puis Tarantino et Canois, qu'on se le dise. Hein. Pulp Fiction, enfin, on va pas faire...
Oh, non, bien sûr.
Inglourious Basterds, Christoph Waltz a gagné un prix d'interprétation, quand même, là, à Cannes. Hein. Donc non, Tarantino, c'est Cannes. Donc le film sera à Cannes.
Voilà.
De facto, exactement.
Tu pourras le voir.
Avec Léo et Brad.
Exactement.
Je vous ramènerai une
pinte avec eux. Si tu peux aller dans sur le ponton du Majestic.
Peut-être pas, mais. Donc... Je ne sais pas encore où sera la soirée du film. Je vais essayer de me débrouiller pour le savoir.
C'est maintenant que tu dois essayer de faire la recherche.
J'ai envoyé un mail, là, à la tâche de presse tout à l'heure.
Bon, enfin.
Parce que, non, mais il me demandait une petite accréditation pour le bif. Je lui dis, je veux bien, mais alors
Alors,
tu me donnes des interviews pour le Tarantino, tu vois.
Et on y va, quoi. C'est pas la Villa Schweppes, hein. Non.
Non, non. Non, la Villa Schweppes, on croise plutôt les Bogdanov et Ilona, tu vois.
Et Orelsan dans un grand jour, hein.
Oui.
C'est pas tous les jours.
Ah oui,
mais
non,
moi, passé.
Oui, je sais. Moi, j'étais pas. On n'y était pas.
On n'y était pas.
Qu'avons-nous fait à place? Je sais pas.
On a vu un film à 23h et dormi dans la salle, peut-être.
T'as été manger une pizza, sans doute.
Oui, c'est ça. Bref, arrêtons de parler entre nous. Hein, n'est-ce pas? Parlons des films qui sortiront le 10 avril, du coup, puisque je le rappelle, on combine les deux émissions. Ah oui, excusez-nous. Hein. Des films très différents les uns des autres, on n'a pas. Je vais te laisser le dire.
Pájaros de verano.
Voilà.
Les oiseaux de passage.
Les oiseaux de passage.
En italien, dans le texte. Non, c'est l'espagnol.
Mais oui, c'est pas italien. Marqueco.
Oui, je sais.
C'est colombien.
Oui, c'est colombien comme
okay.
film. Je voulais voir si t'étais attentif, si t'étais connaissant.
Et figure-toi que je suis très attentif.
Je vois ça.
Je t'ai laissé parler parce que je sais que tu maîtrises le colombien.
Pájaros, claro.
Le colombien. Deuxième film qui sort la semaine du 10, c'est Tanguy, le retour. Alors honnêtement, ça ne m'étonne pas qu'il y ait un Tanguy 2. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'il fasse Tanguy 2, genre 15 ans après le premier Tanguy. C'est quand même un truc de malade, ça.
Presque 20 ans. Hein. Pourquoi? Je pense qu'on était en 2001, quelque chose comme ça.
Tu vois,
ouais.
Ça c'est vraiment... Sabine Azéma et André Dussolier, ils ont pris un sérieux coup de vieux. Quoi.
Je pense que c'est la suite qui arrive, mais pas au bon moment. Tu vois.
Mais c'est beaucoup trop tard. Puis les gens, tu vois, la marque Tanguy, c'est... ça se dit plus. Déjà aujourd'hui, j'ai un Tanguy à la maison.
Non, mais non, si, ça se dit encore.
C'est vrai?
Peu, mais ça se dit.
Pourtant, aujourd'hui, c'est la moyenne pour partir.
Mais
toi, c'est 27
mais
ans.
Mais clairement, pour nous, ça fonctionne, Tanguy. Tu vois, c'est notre génération qui va avoir envie de le voir. Voir les quarantenaires.
Le retour, donc en gros, c'est à 45 ans, il retourne chez ses parents.
Ouais.
C'est ça le concept.
Je pense, ouais.
On n'a pas 45 ans.
Non, mais enfin, je veux dire, moi, Tanguy, c'est sorti quand j'étais petit, j'ai regardé le DVD je sais pas combien de fois.
Oui, parce que c'est une comédie sur les gens qui restent trop longtemps chez leurs parents.
Ouais.
Et on est tout à fait cette génération, puisque la moyenne d'âge de notre génération, c'est 27 ans pour quitter le nid.
Ben voilà.
Oh putain, 27 ans.
Mais je veux dire, alors moi, mes parents n'ont jamais été derrière moi, t'as un Tanguy ou je sais pas quoi. Hein, en même temps, ça fait longtemps que je suis parti. Mais clairement, l'expression Tanguy et tout, nous, on l'a entendu.
C'est vrai qu'on l'a entendu.
C'est notre génération, tu vois.
C'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, ça a du sens de faire le film maintenant. C'est ça que t'es en train de me dire.
Bah je sais pas, ça a du sens. Je trouve quand même que c'est un drôle de timing, mais d'un côté j'ai absolument pas envie de le voir et d'un autre j'ai très envie en fait, parce que j'aimais beaucoup Tanguy quand j'étais petit.
Petit côté feel good. Et pour l'affiche, ils ont fait exactement.
Il m'énervait avec ce type. Bonsoir maman. Bonsoir papa.
Eric Berger.
Je t'aime maman. Je t'aime papa. Oui ta gueule. Hein. T'es une paire de claques tu vois dans ton lit, ouais.
Sans
hein
dissiper. Tanguy, le retour, du coup, ils ont fait la même affiche que le premier film. Hein. C'est au cas où tu l'as oublié. Oui. Moi, directement, j'ai vu l'affiche, je me suis dit, ah, c'est l'affiche Tanguy. La grande aventure de non film d'animation, dont on ne sait pas plus.
Je me retiens très fort de ne pas faire de vanne par rapport à Oui Oui.
Moi, je pensais Génération Non plutôt.
Génération Non.
Tout. J'espère que c'est la musique du film. Franchement, s'ils n'ont pas fait ça, la musique du film, surtout qu'elle n'a pas coûté très cher, à mon avis, cette musique. Donc, film suivant, pardon. Cimetière ou Pet Sematary, le film d'ouverture du film dont on va parler dans quelques instants. Autre film qui sortira le 10 avril, Raoul Taburin, un film qui a été en production depuis un bon bout de temps. Film de Pierre Godot avec Benoît Poulvord et Edouard Baird. Encore Edouard Baird, décidément, c'est le mois d'avril, c'est le mois d'Edouard. Film adapté.
Et François Civil, quand même. Ça reste le mois de François Civil. Aussi.
Non, c'était le mois précédent.
Mars avril. Même février, mais il y a eu trois films en un mois.
C'est vrai, c'est vrai. Donc, Raoul Taburin, c'est un film d'une BD de Sam P. Donc, ceux qui aiment bien les BD seront servis. Voilà, c'est une adaptation de BD, même si on n'est pas dans un truc à la Spirou, hein, on est dans un truc beaucoup plus adulte. Et donc, voilà. De quoi ça parle? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Je sais que ça se passe en Provence, avec un magasin de vélo. Et c'est le genre de film tranquille avec un petit verre de rouge. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que
c'est un petit film qui se déroule dans le milieu de la France. Tranquille. Avec un petit verre de rosé.
Et Benoît Poulvord.
Une petite bouillabaisse. Et Benoît Poulvord qui gagne comme ça.
Qui arrive et qui dit putain mon vélo, mes chaussures. Hellboy.
Edouard, tu ramènes mon vélo. Comme ça? Tu crois qu'il crie ça, Edouard Baird?
En tout cas, c'est un film qu'ils font ensemble depuis Astérix aux Jeux Olympiques. Ça fait plaisir de travailler ensemble de nouveau.
Ouais.
Ouh, la vieille époque. Hellboy, film de Neil Marshall avec David Harbour et Mila Jovovich.
Qu'on passe au bif deux jours après.
Ben voilà.
Parce qu'on s'est fait ken. Le film devait sortir le 12, c'est-à-dire le vendredi. Et donc, nous avions plus ou moins une avant-première. Puis là, ça y est, il y a une semaine, ils ont décidé de le sortir le 10.
Ce qui est très étrange, hein, parce que là... Ah oui, le 10, mais c'est ça, en Belgique, on ne sort jamais un film le vendredi.
Non, mais non. Mais ça devait... C'était censé être l'exception. Non, non, ça arrive, ça arrive. C'est très rare, mais ça arrive. C'est le cas des James Bond parfois. Mais,
Ah ouais?
Ouais, c'est déjà arrivé. Mais voilà, écoute, ils ont changé la date il y a une semaine, que veux-tu? Mais donc ça sort seulement en VO sous-titré le 10 avril, et puis ça sort au mois de mai en VF, je pense, comme la France. Parce que le film sort en France au mois de mai. Donc,
ouais, bon, voir Hellboy en VF, c'est peut-être pas... Enfin,
vu que les Français savent jamais sortir un film correctement. Les dates de sortie, parfois c'est laborieux, hein, tu te demandes ce qu'ils font. Hein. Soit...
C'est encore un autre délire.
Ouais, ouais, ouais.
Bah, grâce à Dieu, sorti avant en France qu'en Belgique.
Oui. Donc, oui, oui, oui. Oui, mais c'est souvent les trucs américains.
Oui, oui, oui. Bah, parce qu'eux, ils sont obligés d'avoir la VF, les Français.
Bah oui, mais ils ont qu'à bosser pour l'avoir avant, tu vois.
Bah, nous, non. Donc nous, ils peuvent sortir pas avant.
Bah oui, c'est pour ça que nos distributeurs font des choix parfois un peu plus intelligents.
Hellboy, du coup, film très attendu. On va revisiter l'univers d'Hellboy sans Guillermo del Toro cette fois-ci. Mais avec un film pour adultes, hein, donc c'est interdit au moins de 18 ans aux États-Unis. Donc du coup. On se dit que ça va être un peu plus gore, un peu plus... ça va tâcher un peu plus, quoi, tu vois. Donc on a hâte de voir ce que ça donne, surtout que c'est un peu le passage de David Harbour du petit écran au grand écran, puisque c'est son grand rôle après Stranger Things, donc même s'il continue en Stranger Things, hein, mais voilà, donc en parallèle. Autre film qui sortira, film d'animation américain qui s'appelle Monsieur Link, ou The Missing Link, avec Hugh Jackman dans le rôle principal, la voix principale, pardon. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire là-dessus. Et autre film, dernier film qui sortira la semaine prochaine, c'est Blanche comme neige avec Isabelle Huppert et aussi Benoît Poulvord au casting, décidément. Il est dans deux films cette semaine-là. Donc il est partout, Benoît Poulvord.
C'est la semaine de Benoît.
C'est la semaine de Benoît. Je propose que, après avoir fait le tour du propriétaire, comme on dit, on s'attaque au film Pet Sematary ou Cimetière qui fera donc l'ouverture du BIF le mardi 9 avril. Thibaut, c'est à toi.
D'accord.
T'as vu comment je te lance? C'est pas beau ça?
Mais oui.
En limite, t'as envie de mettre une musique, tu vois.
Alors bon, c'est une semaine difficile pour moi, parce que il y a quelques minutes, j'ai dû avouer que je n'avais jamais vu un film d'Agnès Varda. C'est le moment où j'avoue que je n'ai jamais lu un livre de Stephen King. Sacrilège!
À côté, tu peux pas voir 300 films par an et lire 300 bouquins par an, tu vois ce que je veux dire? Ça me paraît compliqué.
C'est vrai.
Faut choisir à un moment donné. Surtout que t'écoutes 300 albums par an facile, donc...
J'écoute pas 300 albums de
beaucoup musique,
par an, mais oui, j'en écoute énormément.
Voilà, donc du coup, musique, film, bouquin, alors là, t'as plus de vie, écoute, quoi.
Je lis un peu plus que... Depuis un an, je lis un peu plus qu'avant, ouais. Mais c'est vrai que...
Ça, c'est l'âge, hein, il paraît, qu'on essaye. Moi, j'ai essayé, mais je m'endors toujours quand je lis.
Mais je suis passé d'un niveau supérieur, tu sais. Je suis passé de Tom Clancy à Kundera, quoi.
Oh, je peux pas. Moi, lire, ça me fait dormir direct.
Franchement, tu devrais dormir, hein.
3 pages.
Enfin, tu devrais lire, du coup, ouais.
Oui, mais bon, enfin, oui.
Parce que monsieur a du mal avec le changement d'horaire, donc...
C'est toi qui as dit ça.
Oui. Mais tu as approuvé ce que je disais.
Oui, j'approuve.
Soit tout ça pour dire que j'ai d'énormes lacunes en littérature.
Moi aussi, du coup.
Mais bon, J'avais vu le premier film Cimetière, Pet Sematary, il y a très longtemps. J'en avais peu de souvenirs, même si globalement je me souvenais de quoi ça parlait, etc. Enfin voilà, j'étais très curieux de voir cette adaptation pour plusieurs raisons. Et la première, ce sont les réalisateurs. De parfaits inconnus pour la plupart des gens. Mais pour ceux qui s'intéressent un petit peu au cinéma de genre, ça va peut-être dire quelque chose à certains. Et donc en fait, c'est Kevin Kolsch et Dennis Widmeyer. Ils ont réalisé un film qui s'appelle Starry Eyes. Film qu'on avait présenté au BIF il y a 6 ans, quelque chose comme ça. 2013, je pense, 2014 peut-être, soit. Et donc, bah forcément, le film était bien. Donc, tu vois que les gars sont aux manettes d'une grosse prod quand même américaine. Tu dis, les gars ont gagné en galons. Donc forcément, je suis curieux.
Tout à fait.
Et puis bon, ça reste Stephen King. Ça reste un classique.
Mais de quoi ça parle, justement ?
Ouh, ça parle d'un cimetière d'animaux. Cimetière qui est mal orthographié par les enfants du coin. Qui est donc normalement, en anglais, cemetery, c'est pas écrit qu'un S, mais qu'un C. Comme cimetière en français, c'est écrit qu'un C et pas un S. Mais les enfants l'écrivent avec un S. Dont l'adaptation. Dont
le titre un peu bizarre, titre, oui, tout à fait.
Mal orthographié. Oui, c'est ça. Donc, il y a des enfants ont installé un cimetière pour les animaux qui sont morts dans des bois.
Dans des bois. Bois, vraiment l'endroit qui... idéal pour un film d'horreur, quoi, j'ai envie de dire.
Ouais, mais c'est un bois qui appartient à une famille qui vient de s'installer dans une belle maison. Ils ont un grand jardin et des bois, tu vois. Mais des événements étranges vont arriver, tu vois.
Des coïncidences.
Puis, des trucs bizarres. Et puis il y a des gens qui sont censés être morts. Enfin, un chat qui est censé être mort qui va revenir à la vie. Tu sais pas trop comment, tu vois, alors que le chat était bien mort, hein. Il y avait pas de doute là-dessus. Ouais. Et donc, si tu peux faire revenir les morts, c'est dangereux.
Oui, tout à fait.
Voilà. On s'arrête là.
On s'arrête là.
Il y a des esprits un peu, des esprits, des forces maléfiques qui règnent aux alentours.
Et donc, du coup, est-ce que c'est convaincant ? Est-ce que c'est pas dessus que tu travailles pour le but ? Donc, forcément, tu veux dire que c'est bien, mais...
Bon, non, je pourrais dire que c'est pas bien. Mais je ne le dirai pas. Bien que, mais... Je suis pas une référence en la matière parce que j'ai jamais peur au cinéma. Vraiment, je saurais pas dire la dernière fois que j'ai eu peur. À mon avis, c'était la scène des Velociraptors devant Jurassic Park quand j'avais 6 ans, tu vois.
Jurassic World, je me suis dit, t'avais peur.
Ah oui, non, Jurassic Park. La scène des Velociraptors dans la cuisine, ça me terrifiait.
Moi, j'ai vite peur au cinéma. J'ai une vraie mouillée. D'ailleurs, je déteste aller voir les films d'horreur au cinéma parce que ça m'angoisse.
Mais quand j'étais petit, j'aimais pas les films d'horreur parce que ça me faisait peur.
Ah oui?
Puis, il y a un moment où je suis arrivé à un âge, en fait, il n'y a plus rien qui me fait peur. Enfin, plus rien. Je sais pas, peut-être.
En tout cas, rien sur un écran.
Mais ouais, c'est très très difficile. Donc, voilà. Moi, j'ai pas eu peur devant le film. Mais il y a des passages qui sont pas évidents, qui peuvent être un peu gore, un peu sanglant, qui peuvent être flippants quand même. Hein. Je connais des gens qui se sont cachés les yeux devant le film.
Il paraît que c'est le bouquin, en tout cas, le plus sombre de Stephen King, le plus sinistre, le plus. Malaisant, parfois, certains disent. Donc, t'as senti un peu ce malaise lors du film, ce côté, même si t'as pas eu peur, tu vois, le côté peut-être un peu lugubre, on n'est pas dans un film saut,
oui.
On n'est pas un truc de gore-fest, mais on est dans un film un peu d'ambiance, d'atmosphère pesante, de trucs perturbants, voilà, ce genre de film-là, quoi.
Très clairement. C'est exactement là-dessus que ça joue, surtout. Ça joue sur, évidemment, les événements. Mystérieux, mystique, dramatique, maléfique qui se déroule, mais il faut de bons personnages aussi, et il faut une bonne mise en scène avec une bonne direction artistique,
justement.
De bons décors. Si tout cet ensemble fonctionne bien pour réussir à donner une atmosphère un peu pesante, un peu particulière, un peu voilà, qui va jouer à donner cette ambiance, bah à partir de ce moment-là, le film peut fonctionner. Et à ce niveau-là, c'est réussi.
Jason Clarke au casting, avec entre autres aussi John Lithgow.
Très bon choix.
Qu'est-ce que t'en as pensé ?
Très bon choix. Deux excellents comédiens. John Lithgow, je trouvais qu'on l'avait un peu trop vu dans des comédies ces derniers temps.
Ouais, un film un peu feel-good.
Ouais. Et le revoir dans des trucs plus sérieux, plus plus proche de ce qu'il pouvait faire quand il jouait pour De Palma, par exemple, ça fait plaisir. Moi, je trouve que c'est un comédien qui peut dégager tant de choses différentes.
Ouais.
Parce que dans les films Feel Good, style la suite de Dead is Home, là, avec Mark Wahlberg et Will Ferrell, il joue le père du personnage de Will Ferrell. Très clairement, il cartonne pour faire le type un peu con-con.
Il a la tête un peu du type...
hyper énergique et tout, très gentil, t'as envie de lui faire des câlins, enfin, voilà. Là, c'est un peu l'antithèse, quoi. C'est un type très sombre, qui... très, très renfermé, qui vit dans une vieille baraque un peu lugubre, qui est barbu, il est habillé comme un bûcheron, enfin, pas forcément le type que t'approcherais au premier abord, tu vois.
Ça, voilà. C'est clair.
Et vraiment, il sait tout jouer. Donc, John Lithgow, c'est vraiment un excellent comédien. Je suis content de le voir dans des choses un peu différentes. Jason Clarke, il cartonne dans le rôle principal. Personnage qui va aussi un peu dériver. Donc, très très bon casting.
Bah, écoute.
Les effets spéciaux sont assez cool parce que le chat, il fallait que ce soit réussi. Hein. Il a quand même un rôle un peu important, ce chat. Le fameux animal dont je parlais qui est censé être mort, ouais, et puis qui... Coucou, hein. Donc, c'est vraiment tout ce qui est direction artistique, mise en scène, casting, etc., c'est très réussi.
En tout cas, quelle coïncidence, hein, le film sort, un film sur la résurrection sort pendant les vacances de Pâques.
Tout est dit.
Tout est dit, la messe est dite.
Oh.
Grâce à Dieu.
On parle de Pâques, de la messe, et là c'est parfait.
Et là, c'est pas mal.
La boucle est bouclée.
La boucle est bouclée, j'ai envie de dire.
Mic drop.
Donc, les deux, là, Kevin Kölsch et Denis Widmeyer, ont fait une bonne réal, ont bien bossé pour ce film-ci, qui est satisfaisant dans l'ensemble. Tu lui donnerais combien d'étoiles? Après, 4 étoiles de grâce à Dieu, forcément, ça va peut-être un peu détacher, mais voilà.
Deux, ça serait un peu trop. Un peu pas assez. J'ai l'impression que 3, c'est trop, tu vois.
Ah, ok. Donc, c'est entre 2 et 3. C'est entre 2 chaises.
Ouais, parce que j'ai envie de donner 3 parce que vraiment, c'est un bon film d'horreur réussi qui remplit son cahier de charges. Après, moi, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire non plus, tu vois. Mais je trouve que c'est globalement mieux fait que la plupart des soupes de cinéma d'horreur et cinéma de genre qu'on nous sert au cinéma habituellement.
Ouais, il y a un style, quoi. C'est pas clairement, juste malheureusement, des chats morts qui...
C'est pas les meilleurs films qui sortent en salle pour le cinéma de genre.
Voilà. Pas toujours. Mais donc, dans ce cas-ci, c'est un film mainstream de cinéma de genre, bien foutu. Ouais,
c'est ça.
Qui ne vous prend pas pour des comptes les 3 secondes avec des jumpscares.
Non. Bah, voilà. Ah oui, alors, très bonne gestion des jumpscares, je tiens à le dire. Très, très bonne gestion.
Parfait.
Ça fait plaisir.
Bah oui. Donc, c'est bien si vous aimez.
Quoi, allez, je vais dire 3 pour 3. Faire plaisir. Voilà. Dans une autre semaine, j'aurais peut-être pas dit 3.
Mais 3 pour Pet Sematary.
Film... De toute façon, c'est plus qu'un bon 2.
Voilà. Voilà. Film d'épouvante, mais vraiment. Plus dans l'angoisse, dans l'atmosphère. Donc, si vous aimez pas le film d'horreur glauque ou trop gore, comme des trucs où tout le monde se massacre dans une cage, là, vous avez un film qui est beaucoup plus axé sur l'angoisse, sur l'état d'inquiétude. Et voilà. C'est une autre proposition après le Us de Jordan Peele qui jouait un peu plus sur les trucs complètement what the fuck, hein, j'ai envie de dire. Ici, on est plus dans du fantastique, on va dire assez classique. Stephen King oblige. Donc voilà, c'est 3 étoiles pour Pet Sematary. C'était les 2 films de cette semaine dans l'épisode de Cinécast. On se retrouve du coup dans une bonne quinzaine. On va essayer quand même de se faire encore quelques épisodes avant que Thibaut ne parte à Cannes.
Oui.
Hein, et puis après, on fera un épisode après Cannes quand même pour clôturer cette année et pour également entamer juin puisque ça va être la saison des blockbusters après. Et donc voilà, ce sera notre manière de dérouler la saison et la terminer tout doucement puisqu'on approche de cette fin d'année là.
Mais oui, déjà c'est vrai que ça va vite là. Alors on va quand même essayer de faire quelque chose pendant le bif, hein, même si ça va être une période très chargée tant pour toi que pour moi, je pense.
Ouais, on va essayer de voir aussi si c'est possible de faire un truc à Cannes, tu vois, un Discord ou quoi, hein, ce serait pas mal.
Je vais essayer de faire avec des invités vu que tu seras pas là, hein.
Bah oui, un truc à Cannes. Mais non, mais on peut faire un truc où moi je suis chez moi.
Ouais,
je vous pose des questions sous Cannes.
Ouais.
Ouais, mais c'est chiant.
Non, ça va parler.
Ok, bah tu vas
on va faire des choses. On va trouver
un truc à Cannes. De toute façon, du rosé.
De toute façon, notre public pourra nous retrouver, me retrouver sur Ciné News pour Cannes.
C'est vrai.
On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus proactif que l'an dernier.
Allez.
Je
regarderai.
Il y aura un carnet journalier.
Ah, c'est cool.
Ouais, ça va être sympa.
Mais moi, je regarderai alors.
Puis après, on va voir. Je sais pas si je vais gérer l'Instagram du truc, mais
je serai là. Je regarderai en tout cas avec mon petit dans la main.
Ça marche.
Voilà, ça va.
T'as déjà le prénom?
Oui, bien sûr.
Adolphe ?
Non. Ça fait fureur. Voilà. Elle est facile celle-là.
Ouais.
Bon, on va clôturer l'épisode avant qu'on commence à parler de choses.
Parce qu'on est aussi long alors qu'on a parlé de deux fois moins de films que d'habitude.
C'est parce
hein.
qu'on avait envie de se parler. On avait envie de se parler, Thibaut.
Ouais, c'est vrai.
C'est ça. On avait surtout envie de vous parler. On se dit du coup à dans deux semaines. Merci beaucoup d'avoir écouté Cinécast et des bisous.
Mais oui.
Et
très
attends,
bien.
Oui. Et venez voir Thibaut au bif. Si vous passez au bif, Thibaut sera là.
Venez au bif. Ben venez voilà. au bif. C'est un peu tard. On aurait dû faire ça, hein, faire un concours, gagner des places et tout, mais c'est un peu tard.
Non, il n'y a pas de concours.
Ouais.
Les places sont trop chères.
Et du coup, il n'y a pas de concours. Mais on fera peut-être un concours sur Synopsis. Je vais voir.
Puis tu verras s'il y a encore moyen
Allez,
de te donner quelque chose.
Oui.
En tout cas, merci d'avoir écouté Cinécast. On se retrouve dans deux semaines. Des bisous.
À bientôt.